Lutte de classe numéro 137, juillet-août 2011. La menace grandissante d'une nouvelle catastrophe financière. Les derniers rebondissements de la crise dite « entre guillemets grecque » illustrent la désorientation, l'affolement et on pourrait même dire la panique des dirigeants du monde capitaliste devant la menace d'un nouveau cataclysme financier plus grave encore que celui de 2008-2009. Les milieux d'affaires ont au moins une boussole. Comment faire le maximum d'argent à court terme? Mais ils ne se font absolument pas d'illusions sur l'avenir à moyen et à long terme. Comme disait si bien l'un d'entre eux sous forme de boutade, ouvrez les guillemets, si vous avez aimé la crise de Lehman Brothers, vous allez adorer la crise de la dette. Fermez les guillemets. Mais côté dirigeants politiques, l'Union européenne, ou plus exactement la zone euro, est devenue une véritable maison de fous. Des sommets succèdent aux sommets, panachés de rencontres bilatérales ou de réunions discrètes, avec pour résultat des déclarations contradictoires, une cacophonie politique qui indique qu'ils naviguent tous à vue, et même à très courte vue. Ce qui les panique, c'est la peur d'une panique, financière celle-là, dont ils savent qu'elle peut se produire à n'importe quel moment, de façon aussi imprévisible que violente. La dette dite, entre guillemets, souveraine. Les marchés financiers sont erratiques et totalement imprévisibles. Ils savent tous, et ils le disent, que la dette de la Grèce est relativement peu de choses. Mais il suffit que ceux qu'ils appellent, entre guillemets, investisseurs, c'est-à-dire les spéculateurs, cette douzaine de grandes banques qui dominent le marché financier, s'affolent à tort ou à raison, et que leur inquiétude concernant la capacité de la Grèce à les rembourser les entraîne à se méfier aussi du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne, pour que se déclenche une réaction en chaîne que personne ne maîtrise. Voici comment un chroniqueur des Échos décrit ce qui se passe sous un titre évocateur, entre guillemets, le fantôme de la grande panique. La Grèce est, ouvrez les guillemets, seulement emprunteur et un emprunteur marginal. Sa dette est à peine de 350 milliards d'euros, 5 fois moins que celle de la France. Dans ces conditions, il peut paraître étrange de voir nos grands argentiers tétanisés par la crainte d'une faillite à la Lehman. Mais ce n'est pas le fantôme des frères Lehman qui envahit leur cauchemar. C'est celui de la grande panique, cette contagion qui s'est instantanément emparée de la finance mondiale le 15 septembre 2008, et qui risquerait de réapparaître si jamais l'État grec faisait, entre guillemets, défaut, un mot tellement dangereux que les officiels européens n'osent pas plus l'employer, un peu comme les hommes politiques français ont un boulet sur la langue qui les empêche de prononcer le mot « rigueur ». Les 350 milliards d'euros de la Grèce ne pèsent pas bien lourd à l'échelle des marchés qui brassent plus de 100 000 milliards de dollars. Mais c'est davantage que la facture initiale du crédit subprime qui a entraîné la plus grande catastrophe financière depuis près d'un siècle. Fermez les guillemets. Il suffit que ceux qui placent et déplacent ces centaines, ces milliers de milliards craignent la défaillance d'un ou plusieurs États pour qu'en voulant sauver préventivement leur mise, ils provoquent la panique. Une panique susceptible de se traduire par une crise du crédit, les banques arrêtant de se prêter les unes aux autres, de peur que leurs partenaires soient lestés par trop de reconnaissances de dettes venant d'États défaillants. C'est ce qui s'est passé en septembre 2008. L'assèchement du crédit n'a été surmonté, avant d'aboutir à un cataclysme économique, que par l'intervention des États, qui ont débloqué des centaines de milliards pour relancer les circuits financiers. Mais ce sont précisément les moyens mis en œuvre pour surmonter la crise financière de 2008 qui ont endetté jusqu'au cou les États, ce qui revient aujourd'hui en boomerang sous forme de, ouvrez les guillemets, problème de la dette souveraine, fermez les guillemets. La menace est plus grande encore, car la crise de confiance entre banques, qui a caractérisé septembre 2008, menace de se doubler d'une crise de confiance envers les États eux-mêmes, leur reconnaissance de dette et leur monnaie. Encore une fois, c'est une agitation totalement irrationnelle et imprévisible, d'où la prudence des grands organismes financiers, des dirigeants des États européens, évitant jusqu'aux mots qui fâchent. Mais il suffit que les fameuses agences de notation dégradent une banque, ce qui risque d'arriver à plusieurs banques françaises trop engagées dans les prêts à la Grèce, ou un État, pour que l'un comme l'autre soit considéré comme de mauvais payeurs et qu'ils ne trouvent à emprunter sur les marchés financiers qu'à des taux augmentés. Tout le gotha du monde financier dit et répète que ces agences de notation ne sont pas fiables, que leurs prédictions ne valent guère plus que celles des cartomanciens, que d'ailleurs elles n'ont pas vu venir la crise financière de 2008 et qu'elles ont donné à l'époque les meilleures notes, y compris à des banques qui allaient se casser la figure. Cela ne fait rien. Les dites agences continuent à faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Il est vrai que, lorsque la note d'un État est dégradée, les banques peuvent augmenter leur taux d'intérêt. Et comme ces agences sont les émanations des banques, tout ce beau monde est content, même si cela finit par se traduire par des politiques d'austérité et par la misère accrue pour les classes exploitées du pays, entre guillemets, dégradé. Éviter les mots qui fâchent ne suffit pas à rassurer les marchés financiers. Il faut mettre l'argent sur la table pour montrer aux dix marchés financiers qu'en cas de défaillance d'un ou plusieurs États européens, les autres accepteront de se substituer à eux et de payer rubis sur l'ongle. Seulement voilà, est-ce que les sommes mises sur la table par les États suffisent? Cette question donne lieu à son tour à de la spéculation. Et voilà ce que cela donne aujourd'hui, pour reprendre les formulations du spécialiste en investissement financier de la banque d'Axia. Ouvrez les guillemets. Jouer aux allumettes est beaucoup plus dangereux si on est assis sur un baril de poudre. Fermez les guillemets. Certes, certes. Ouvrez les guillemets. En cas de restructuration de la dette grecque, compte tenu des dynamiques à l'œuvre sur les marchés, on est sûr de la contagion à l'Irlande et au Portugal. Fermez les guillemets. Mais, ajoute le spécialiste, ouvrez les guillemets, au cas où ces pays craquent les uns après les autres, l'attention se porterait sur les pays jugés par les marchés financiers comme à risque intermédiaire, l'Espagne, mais aussi l'Italie et la Belgique. Traduction, le mot entre guillemets « attention » signifie « spéculation ». En ajoutant l'Espagne à la Grèce, au Portugal et à l'Irlande, la liste des États susceptibles d'être en faillite et incapables de faire face aux échéances de leurs dettes, la somme nécessaire pour payer à leur place les banquiers serait de 523 milliards d'euros. Les différents mécanismes de financement européens et du FMI peuvent atteindre jusqu'à 750 milliards d'euros. Cela suffirait donc. Mais une éventuelle contagion à l'Italie ferait plus que doubler le besoin de financement, à 1123 milliards d'euros. Dans ce cas, que faire? Mais cette crainte de la panique, et donc celle d'un assèchement brutal des circuits financiers, est en même temps une arme de guerre entre les mains des banques. C'est en agitant cette crainte que le système financier pèse sur les gouvernants et sur leurs décisions. C'est en se servant de cette crainte que les banques imposent leurs exigences à des dirigeants politiques tout disposés à y céder. Et la dette privée. D'autant plus que la crainte de la défaillance d'un État comme la Grèce se répercute à d'autres États, se double d'une autre panique. Parallèlement à la méfiance à l'égard de l'État grec, s'installe la méfiance vis-à-vis des banques qui ont beaucoup prêté à la Grèce, aussi bien à l'État grec qu'à de riches particuliers. C'est ainsi que le Monde du 17 juin raconte que, ouvrez les guillemets, si les banques européennes et françaises en particulier connaissent à nouveau des jours difficiles en bourse, c'est d'abord parce qu'elles sont parmi les plus importants créanciers de la Grèce. Leur exposition totale à ce pays s'élevait fin 2010 à 162 milliards d'euros. Sur ce montant, la dette souveraine, c'est-à-dire l'argent prêté à l'État grec lui-même, représente 52 milliards. Les banques françaises et allemandes en portent l'essentiel. Fermez les guillemets. La France surtout d'ailleurs. Ouvrez les guillemets. Depuis des semaines, la Banque centrale européenne a mis en garde contre un effet Lehman Brothers si la crise grecque s'aggravait. De même que le système financier américain s'est effondré après la faillite de la banque américaine en septembre 2008, provoquant peu à peu une crise de liquidité dans le monde entier, une mise en défaut de la dette grecque risquerait de déclencher une crise de confiance dans la zone euro dont personne n'est capable de mesurer l'ampleur. Fermez les guillemets. Derrière ce jargon d'économistes, que se passe-t-il? D'un côté, les banques se sont jetées sur la Grèce endettée pour lui prêter de l'argent, y compris en lui forçant la main. En même temps, elles invoquent le risque qu'elles prennent que la Grèce ne puisse pas les rembourser pour augmenter le taux d'intérêt auquel elles consentent à prêter. Chaque État emprunte tous les jours pour faire face à ses dépenses, comme il rembourse tous les jours la fraction de sa dette arrivée à échéance. La question de la capacité de l'État grec à rembourser est agitée à chaque échéance. Elle relance par la même occasion les spéculations sur sa capacité à faire face à sa dette en général. Plus pessimistes sont les prévisions ou les prédictions, plus montent les taux d'intérêt. Le taux des obligations à 10 ans de l'État grec est en ce moment de 27,55%. C'est un taux d'usurier, mais c'est seulement à ce taux que l'État grec trouve de l'argent frais sur les marchés financiers. Mais même en prêtant à ce taux, les banques veulent être remboursées. Les gouvernements passent donc leur temps à leur donner, pour reprendre une expression qui traîne partout, des ouvrez les guillemets, signaux positifs, fermez les guillemets, c'est-à-dire des assurances. Mais encore une fois, les banques, elles, ne croient pas les assurances des dirigeants politiques. Elles veulent voir l'argent sur la table. Cet argent sort des caisses des États. C'est en contrepartie de cela que les gouvernements imposent des économies sur le reste de leurs dépenses. Les résultats concrets en sont visibles pour ce qui est des pays les plus pauvres et les plus menacés de faillite comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne. Diminution du nombre de salariés des services publics et liquidation progressive de ces derniers. Blocage ou diminution des salaires. Hausse des impôts, en particulier de la TVA ou de son équivalent, qui frappe toutes les catégories de la population, y compris et surtout les plus mal lotis. Affaiblissement des protections sociales, diminution des pensions de retraite. La médication est la même partout, si les différentes composantes de la mixture peuvent varier d'un pays à l'autre. Il s'agit de prélever sur les classes exploitées les dettes que les États ont faites avant et surtout après la crise financière de l'automne 2008 pour venir au secours du système bancaire et réanimer les circuits du crédit. Les dégâts de ces politiques sont déjà visibles, et ô combien, dans des pays comme la Grèce, le Portugal et l'Espagne. C'est une spirale infernale, car les médications pour rétablir l'équilibre financier des États endettés aggravent en réalité cet endettement. L'accroissement du chômage induit par la réduction du nombre de travailleurs des services publics diminue la capacité de consommation populaire et freine encore plus l'économie. Obligés de payer des intérêts de plus en plus élevés sur leurs dettes antérieures, les États s'endettent encore plus. Ce mécanisme fait tourner le système financier, mais en même temps appauvrit les États et surtout leur classe populaire. Même dans les États réputés les plus riches, comme l'Allemagne, les dirigeants ont un problème. Les contribuables ne sont pas fous et ils savent que c'est de leur poche que doit sortir l'argent donné aux États dits défaillants, c'est-à-dire, dans la réalité, aux banquiers prêteurs. Les dirigeants politiques doivent jongler entre la nécessité de mettre de l'argent sur la table pour rassurer les marchés financiers et tenter de persuader les électeurs que cela ne leur coûtera pas trop cher. La proximité des élections rend la jonglerie particulièrement difficile. De Merkel à Sarkozy, chacun a sa méthode pour résoudre cette quadrature du cercle. La seule idée qui ne leur viendrait pas à l'esprit, c'est de faire payer les banquiers eux-mêmes. À en croire les commentateurs, Angela Merkel a voulu mettre à contribution les banques pour pouvoir prétendre devant les électeurs qu'ils ne seront pas les seuls, en tant que contribuables, à faire des sacrifices. Mais le seul entre guillemets sacrifice que le gouvernement allemand comptait demander aux banquiers était qu'ils n'exigent pas le paiement immédiat de leurs créances venues à échéance et qu'ils consentent à les prolonger, étant entendu qu'ils pourraient continuer à exiger des taux prohibitifs. Mais même cela a été, de l'avis de Sarkozy et de la Banque centrale européenne, un entre guillemets mauvais signe adressé aux banquiers. Car dès qu'on modifie les conditions dans lesquelles un crédit a été accordé, cela provoque ce qu'ils appellent dans leur jargon un incident de crédit ou encore un événement de crédit Or, paraît-il, rien que cela serait considéré par les marchés financiers comme un défaut de paiement de fait. Et ce n'est pas qu'une question de mots, car les banques s'assurent contre un défaut de paiement de leurs débiteurs auprès d'autres banques ou de maisons d'assurance. Et cette assurance se traduit par un bout de papier qui porte le doux nom de Credit Default Swaps, CDS. Mais ce, entre guillemets, contrat d'assurance se vend et s'achète également et est devenu objet de spéculation. Son prix peut donc également s'envoler ou s'effondrer. On dirait la réaction nucléaire. Une petite explosion au départ en provoque d'autres en chaîne, de plus en plus puissantes. C'était un peu le mécanisme qui, à partir d'une crise au fond bénigne de l'immobilier aux États-Unis, a abouti, via les crédits subprimes, à l'explosion financière mondiale que l'on sait. En d'autres termes, comme ces messieurs les banquiers ont prêté à taux d'usure, ajoutez quelques conditions que ce soit, y compris celle de prolonger leur prêt, par exemple de 5 à 8 ans, a été considérée comme une atteinte à leur sacro-saint droit d'écraser un pays débiteur. Rien que cette crainte peut déclencher la fameuse « crise systémique » dont ils parlent tant. Et c'est cet affolement qui rend les États prisonniers consentants des marchés financiers, c'est-à-dire des grosses banques. Petit exemple presque anecdotique, intervenu ces jours derniers, de l'épreuve de force permanente dans laquelle les banques ont fait reculer les États et leurs dirigeants. Pour venir au secours des banques en cas de défaillance des États débiteurs, l'ensemble des États de la zone euro ont mis en place un mécanisme, le mécanisme européen de stabilité, MES pour les intimes, qui doit entrer en vigueur en 2013. Ce mécanisme va donc gérer les centaines de milliards d'euros destinés à rembourser les banques en cas de défaillance d'un État. C'est une sorte de grande caisse de solidarité alimentée par les États qui, au début des négociations pour sa mise en place, devait bénéficier du statut de « créancier prioritaire ». Eh bien, les banques n'ont pas été d'accord, et ce sont les gouvernements qui ont reculé. Si les dettes sont restructurées et s'il reste de l'argent dans les caisses de l'État défaillant, les États créanciers ne seront pas prioritaires pour récupérer au moins une partie de leur mise. C'est une victoire pour les investisseurs, a titré un journal économique. Cette volte-face des dirigeants européens, va permettre à l'Irlande de revenir sur le marché, car il y aura des gens pour nous prêter de l'argent, s'est réjoui le ministre des Finances irlandais. Certes, les banques privées, si elles ont l'assurance que, quoi qu'il arrive, elles seront remboursées, même si elles pratiquent des taux d'intérêt extravagants, pourront prêter le cœur léger à quiconque acceptera leur taux d'usurier. Les conséquences de l'instabilité financière. S'il y a une nouvelle crise financière impliquant cette fois-ci non seulement le système financier, mais aussi les États, ses conséquences seront plus graves pour l'économie productive que la crise des subprimes de 2008, plus graves que la panique boursière de 1929. Or, la panique boursière de 1929 s'est prolongée par la crise économique la plus grave de l'histoire du capitalisme, avec les conséquences sociales et politiques que l'on sait. Mais sans même en être arrivé là, les remèdes contre la menace d'une nouvelle crise du crédit pèsent déjà lourdement sur l'économie. En anticipant un assèchement des circuits du crédit, les États-Unis pratiquent la politique qu'ils appellent, ouvrez les guillemets, « plan d'assouplissement quantitatif », fermez les guillemets. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire racheter par la Banque centrale américaine des bons du Trésor émis par l'État américain. En somme, avec l'argent fabriqué par l'État, on accroît artificiellement la demande de bons du Trésor américain afin d'en augmenter le prix, ou du moins de l'empêcher de baisser, en permettant par la même occasion aux banques et institutions financières diverses de se débarrasser d'actifs financiers dont elles se méfient. Derrière le jargon économique et l'expression, ouvrez les guillemets, assouplissement quantitatif, fermez les guillemets, il s'agit de la vieille recette de la planche à billets. L'État américain fabrique des milliards, des dizaines de milliards de dollars inflationnistes. Les Échos soulignent que ce plan, ouvrez les guillemets, a eu des effets indéniablement positifs, notamment sur la psychologie des investisseurs, fermez les guillemets. Oh, que c'est joliment dit! Mais, ajoute-t-il, il a également fait, ouvrez les guillemets, un certain nombre de dommages collatéraux, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, l'afflux de liquidités sur les marchés a favorisé la création de bulles sur les actifs risqués. Fermez les guillemets. Autrement dit, ces milliards supplémentaires jetés dans l'économie pour huiler les circuits financiers et les mécanismes du crédit ont été utilisés pour alimenter la spéculation, fabriquant par là même des menaces supplémentaires d'éclatement de bulles spéculatives. Autre, entre guillemets, dommage collatéral, les milliards détournés vers la spéculation se sont en partie portés sur les matières premières. Ils ont provoqué un mouvement de hausse de prix de celles-ci. On sait les conséquences catastrophiques de ces hausses de prix lorsqu'il s'agit de matières premières alimentaires. Quelques pourcents de hausse sur les prix du riz, du blé ou du maïs provoqués par la demande spéculative peuvent faire basculer des millions de pauvres d'Afrique ou d'Asie de la sous-alimentation à la famine. La hausse des prix des matières premières pèse aussi sur les industriels, c'est-à-dire précisément sur la production. La crise pétrolière des années 70 et les hausses de prix provoquées par les trusts du pétrole ont à l'époque fortement grevé les prix de revient des entreprises industrielles, aggravant la crise économique. Menace sur l'euro. Autre menace immédiate, l'explosion de l'euro. On en reparle depuis 2 ans, chaque fois que la spéculation s'intensifie. Il faut croire que la menace actuelle est particulièrement importante pour inciter 48 PDG de grandes entreprises, dont celle du CAC 40, à signer une tribune libre dans Le Monde affirmant, ouvrez les guillemets, « En tant qu'industriels allemands et français qui ont la responsabilité de 1 550 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 5 millions de salariés dans le monde entier, nous nous soucions de l'avenir de l'euro et de l'union économique et monétaire européenne. L'histoire de l'euro est une véritable réussite. » Fermez les guillemets. En ajoutant, ouvrez les guillemets, les solutions envisagées comme par exemple l'exclusion de pays membres de la zone euro ou la scission entre une union des pays du Nord et du Sud ne sont pas bonnes. En tant qu'industriels allemands et français, nous voulons souligner les immenses avantages que l'espace monétaire commun a apportés. C'est la base de la future prospérité en Europe. Fermez les guillemets. Il n'est pas difficile de deviner de quelle prospérité il s'agit et de qui, puisque la tribune est signée par du beau linge, du monde capitaliste, comme Jean-Cyril Spinetta, PDG de France, d'Air France KLM, Gérard Mestrallet, PDG de Suez, Philippe Varin, que les travailleurs de Peugeot Citroën ont des raisons de connaître, puisque c'est leur PDG, ou encore Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, Christophe de Margerie de Total, sans parler du reste de la cohorte des PDG d'Alcatel-Lucent à BMW en passant par France Télécom. Si même les plus puissants représentants du grand capital en sont assignés une tribune dans le monde, c'est qu'ils ne contrôlent pas les marchés financiers et la spéculation qui menace l'euro. Pourtant, c'est dans une large mesure avec leur argent que les banques spécialisées spéculent. Mais en réalité, la tribune ne vise pas à influencer les marchés financiers, elle vise à faire pression sur les dirigeants politiques d'Europe. Le message est, ouvrez les guillemets, « Nous avons besoin de l'euro, vous n'avez pas le droit d'abandonner la Grèce, et demain le Portugal, l'Espagne, etc., à son sort, en prenant le risque de la disparition de l'euro. Prenez donc en charge la dette de tous les États défaillants, remboursez les banques, quitte à écraser vos classes populaires par des politiques d'austérité draconienne. » Fermez les guillemets. La zone euro contourne ses propres règles pour faire marcher la planche à billets. Le problème des pays de la zone euro, c'est qu'il leur est bien plus compliqué qu'aux États-Unis de faire marcher la planche à billets. Derrière la Banque fédérale américaine, la Fed, il y a l'État des États-Unis. Derrière la Banque centrale européenne, BCE, il y a 17 États de la zone euro, chacun avec ses propres intérêts. Même si les petits États ne comptent guère, les intérêts des États impérialistes de la zone, l'Allemagne et la France en premier lieu, et dans une certaine mesure l'Italie et les Pays-Bas, ne coïncident pas nécessairement. La BCE a cependant commencé à s'engager sur la même voie que la Fed, malgré ses statuts qui lui interdisent d'avoir recours à la planche à billets. Comme le dit un article du Figaro du 17 juin, avec un sens certain de l'euphémisme, mais clairement, ouvrez les guillemets, « Depuis quelques semaines, les banques privées allègent leur exposition à la Grèce, laissant les États, la BCE et le FMI prendre le relais. Schématiquement, les contribuables sont mis à contribution pour que les banques s'échappent du piège grec. Les citoyens de la zone euro paieront donc à la place des établissements financiers. » Fermez les guillemets. En d'autres termes, les banques qui estiment qu'elles ont dans leurs réserves trop de dettes pourries de l'État grec peuvent les échanger contre des euros sonnants et trébuchants auprès de la BCE. Comme la politique de entre guillemets assouplissement quantitatif de la Fed, cela se traduit par la fabrication d'une monnaie inflationniste. Depuis le printemps 2010, la BCE a racheté quelque 75 milliards d'euros de dettes grecques, portugaises, irlandaises. L'Allemagne, qui a été à l'origine de l'interdiction de ce genre de pratique dans le règlement de la BCE, se fait cependant une raison tellement tous les gouvernements sont complices pour ne pas lâcher les banquiers qui ont siphonné la Grèce. Ce rachat massif de reconnaissance de dettes pourries a cependant une autre conséquence que l'aggravation de l'inflation. Les spéculateurs savent que la Banque centrale européenne a une quantité croissante de ses dettes pourries dans ses réserves, ce qui aggrave la méfiance à l'égard de l'euro et pousse dans le sens de son affaiblissement. La démagogie protectionniste est l'utopie d'une, entre guillemets, gouvernance européenne. Face aux menaces sur l'euro, deux discours contradictoires courent dans le monde politique de la bourgeoisie. D'une part, le discours protectionniste de ceux qui affirment la nécessité de quitter la zone euro pour redonner à chaque État le droit de faire marcher la planche à billets pour son propre compte. Que cela vienne de l'extrême droite ou d'une partie de la gauche, pour le moment, c'est surtout de la démagogie électorale. En sert d'illustration la petite comédie protectionniste à propos d'Air France qui envisage de commander des Boeing et pas seulement des Airbus. des députés se sont élevés contre une attitude si manifestement antinationale. Seulement voilà, boycotter Boeing est contre-productif, et pas seulement parce que cela déclenchera des boycotts de rétorsion, mais des pièces de Boeing sont fabriquées dans un grand nombre de pays industriels, notamment en France. Réciproquement, dans un Airbus, il y a une multitude d'éléments fabriqués aux États-Unis. Nombre d'équipementiers sont sous-traitants des deux ou souhaitent le devenir. Face aux trompettes de la démagogie protectionniste, l'autre discours concerne la gouvernance européenne. Puisque la planche à billets nécessite une politique économique coordonnée, il faut au contraire pousser plus loin l'intégration européenne. Il faut plus de fédéralisme. Mais si les grands États de l'Union européenne ont les moyens de contraindre les plus petits à, ouvrez les guillemets, plus de fédéralisme, fermez les guillemets, en clair, les obliger à leur obéir, qui peut contraindre les États impérialistes d'Europe de puissance équivalente à abandonner plus de souveraineté qu'ils ne le veulent? Personne n'a pu contraindre la Grande-Bretagne, au moment de la création de l'euro, à abandonner la livre sterling. Même à supposer que les États parviennent à un accord pour désigner un ministre de l'économie unique pour l'Europe, il n'y a aucune raison qu'il ait plus de pouvoir que Trichet, le directeur de la Banque centrale européenne, et il en aura probablement moins. Car le problème resterait le même. Comment concilier les intérêts divergents des États, et plus particulièrement des deux États qui comptent dans la zone euro, l'Allemagne et la France? Les bourgeoisies européennes continuent à payer pour leur incapacité à unifier le continent et à mettre en place un État unique. L'impossible contrôle de l'économie sous le capitalisme. Comment s'étonner que la crise financière menace l'Union européenne et le fragile équilibre de l'euro? Elle menace bien plus fondamentalement tout l'ordre économique capitaliste. Une fois de plus, dans l'histoire du monde capitaliste, la finance menace l'ensemble du fonctionnement de l'économie. D'où les lamentations sur le entre guillemets, pouvoir de la finance et des phrases pontifiantes sur la nécessité de la contrôler. Mais personne n'y arrive, pour la bonne raison que la finance fait partie intégrante de l'économie capitaliste, de son fonctionnement, même lorsqu'elle prend un développement excessif, cancéreux. Contrôler la finance, c'est contrôler la concurrence, et c'est mettre en cause le droit de chaque capitaliste, de chaque groupe capitaliste, de se livrer aux activités qui lui rapportent le plus de profit. Cela peut arriver, et en un certain sens, cela est arrivé, notamment dans l'Allemagne nazie. Mais cela a signifié renier seulement les droits des petits fauves du capitalisme au profit des plus puissants sous l'égide de l'État. Sous le capitalisme, s'opposer à l'anarchie capitaliste implique la dictature économique des grands trusts sur l'ensemble de l'économie et la dictature politique de régimes autoritaires sur toute la société. La seule alternative qui ouvre une perspective devant la société, c'est en effet de prendre en main le contrôle de l'économie, mais par l'expropriation de la grande bourgeoisie, la suppression de la propriété privée des moyens de production et, par là même, la disparition de la concurrence qui représente un formidable gaspillage du travail humain, même dans les périodes de calme du fonctionnement de l'économie et, à bien plus forte raison, en temps de crise.